Bon, vous avez entendu cette histoire de jeune fille du pensionnat du Saint-Nom-de-Marie à Montréal qui a décidé de ne pas porter de soutien-gorge et ça a relancé le débat sur la tenue vestimentaire. Peut-être êtes-vous surpris d'apprendre que certaines femmes peuvent se sentir obligées d'en porter un. Et pour faire le point, elle est du mouvement des carrés jaunes, la jeune Célestine, instigatrice d'un débat similaire sur la question il y a quelques semaines.
Alors ce mouvement-là, ça a parti dans la région de Québec au printemps dernier. Des jeunes étudiantes avaient lancé le mouvement des carrés jaunes pour protester contre les codes vestimentaires. Elles réclamaient le droit de porter des camisoles à bretelles minces et des shorts à mi-cuisse. Et puis finalement, elles ont eu gain de cause, elles ont gagné. Et l'une des leaders cofondatrices du mouvement des carrés jaunes s'appelle Célestine Houda et elle est au bout du fil. Célestine, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très bien. Vous êtes étudiante en secondaire 4. D'abord, dites-nous un petit peu, résumez-nous les raisons pour lesquelles vous menez ce combat-là.
Moi, je mène ce combat-là parce que je considère que c'est un peu ridicule de faire sortir des filles de classe ou de les retourner à la maison parce qu'elles sont habillées d'une façon non convenable selon la société ou selon l'école, tandis que les garçons, eux, ils n'ont jamais de restrictions, ils peuvent rester en classe et la raison qu'on nous donne, c'est ça les déconcentre. Donc, c'est comme sous-entendre que l'éducation des garçons est plus importante que notre éducation et que c'est nous qui doivent se plier aux hormones des garçons et pas les garçons qui doivent se contrôler et comprendre qu'un corps de fille, c'est pas inapproprié.
Eh, boy, vous connaissez votre argumentaire, vous?
Oui, je l'ai...
Vous l'avez
j'ai
pratiqué?
J'ai beaucoup réfléchi, en fait, avant de partir mon mouvement. Je pars pas ça en me disant, en me levant un matin, en me disant, bon, mais ce serait intéressant de faire quelque chose. Non, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. J'ai argumenté avec bien les gens. J'ai pesé le pour, le contre et, ouais.
Est-ce qu'il y a, à votre avis, une obligation d'avoir une tenue décente? Mettons de côté, là, le soutien-gorge, puis les camisoles à bretelles minces, puis les shorts à mi-cuisse, là. L'idée d'avoir une tenue qui est décente quand on va à l'école, est-ce que c'est un principe que vous acceptez ou c'est quelque chose que vous rejetez?
Moi, je l'accepte, ce principe-là, parce que je considère qu'on est à l'école, on est dans un lieu d'enseignement, un lieu d'apprentissage, et c'est vrai qu'il faut qu'on ait une tenue appropriée pour étudier, en fait, qui ne déconcentre pas les élèves autour ou qui ne propage pas de messages violents. Je comprends absolument ce principe-là. Mais je considère que surtout ces derniers jours, il a fait beaucoup de choses, surtout la semaine passée où il y a eu des températures extrêmement élevées dans la province, que nous obliger à porter des chandails longs ou des brassières ou des pantalons, alors que les gars peuvent se promener en short et en camisole sans problème. C'est vraiment là qu'il y a une inégalité.
Alors, c'est quoi une tenue décente pour vous?
Ben moi, je considère qu'il ne faut pas que les seins ou les parties génitales ou les fesses soient visibles d'aucune façon. Je considère que les sous-vêtements ne doivent pas être visibles non plus. Ça va autant pour une bretelle de soutien-gorge, à mon avis, que pour les boxeurs des garçons. Je considère que les sous-vêtements, ça reste caché. Mais que quelqu'un qui décide de ne pas porter de sous-vêtements ou de ne pas porter de brassière, si ses seins sont cachés et qu'il n'y a pas de suggestion à travers la vie, c'est complètement légal, c'est complètement approprié pour l'éducation, en fait.
Vous trouvez, dans le fond, là, qu'il y a quelque chose de discriminatoire dans les codes vestimentaires. Et en général, si je vous comprends bien, les codes vestimentaires sont plus exigeants et deviennent à un moment donné inéquitables pour les filles. Ça devient trop exigeant pour les filles et ça devient d'une certaine façon injuste pour les filles. Ça devient discriminatoire pour les filles.
Ouais, voilà. Donc, justement, en mettant tant de contraintes sur les filles, des contraintes qu'on ne met pas sur les garçons, en sous-entendant que le corps d'une fille, par exemple, son ventre, sa poitrine, ses jambes, sont d'une certaine façon plus sexuelles que la poitrine, les jambes ou le ventre d'un garçon, ça crée des complexes, ça fait comprendre à la fille qu'elle est plus consommable, qu'elle est davantage un objet de la société, qu'elle est plus désirable, vraiment, qu'un garçon. Donc, je pense que, d'une certaine façon, ça encourage la culture du viol, l'hypersexualisation. Ça explique aux filles qu'elles sont pas juste un corps, qu'elles n'ont plus d'intégrité sexuelle, en fait.
Écoutez, c'est très étonnant ou c'est très... comment je vous dirais ça? C'est un peu surprenant parce que j'imagine très bien des féministes, il y a 20 ou 25 ans, tenir exactement... prendre les mêmes exemples, mais tenir le discours contraire. C'est-à-dire de dire, par exemple, que d'exposer le corps de la femme... À un moment donné, ça peut devenir, ça peut encourager l'idée que le corps est marchandise. Et donc, il ne faut pas aller dans cette direction-là, qu'il ne faut pas aller vers un corps de plus en plus dénudé pour ne pas justement envoyer un message justement de d'hypersexualisation et de femme-objet. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, je comprends très, très bien. Mais en fait, je trouve que d'une certaine façon, c'est vrai ce que vous dites. Et d'une autre certaine façon, c'est faux aussi parce que les féministes dans les années 60-70 étaient aussi dans une révolution sexuelle dans le sens de ne voulaient plus porter de soutien-gorge, voulaient avoir un corps libéré. Et c'est à peu près le même discours que celui que je propose en ce moment. Et je considère que une société où on dit qu'il faut cacher la femme parce que si on l'expose trop, ça va l'hypersexualiser, mais qu'il n'y a pas de problème avec l'homme, que l'homme n'a pas besoin d'être caché parce que de toute façon, il n'est pas sexualisé, c'est là qu'il y a un petit biais dans la chose. Qu'un gars pas caché, un gars avec moins de vêtements, c'est pas sexualisé, mais qu'une fille avec moins de vêtements, elle le serait.
Donc, et ça s'explique comment, ça?
Je n'aurais pas été d'accord. Pourquoi? Ça s'explique justement avec notre éducation qu'on reçoit. L'éducation que depuis toujours, on se dit « faut te cacher, faut te cacher, faut te cacher », parce que si tu te caches pas, c'est là que tu vas devenir un peu une marchandise. Sauf que nous, on veut qu'en tant que fille, on puisse autant se promener en petit short ou se promener le ventre à l'air qu'un gars puisse le faire sans être considéré plus une marchandise que le gars qui se promène topless et qui, lui, n'a aucun problème de sexualisation, jamais.
Alors donc, vous n'êtes pas contre le principe d'un code vestimentaire, mais vous voulez, si je comprends bien, avant de vous en faire imposer un, vous voulez être à la table et avoir droit au chapitre, puis avoir le droit, dans le fond, de participer à la discussion, puis de décider, ben on est prêt, oui, comme femme,
ouais.
On est prêt à l'accepter, mais ça, on trouve que vous allez trop loin, donc on aimerait ça assouplir le code, mettons, dans votre école,
exactement.
Par exemple.
Qu'il y ait un code vestimentaire égalitaire, qui soit exactement le même, avec les mêmes contraintes pour les filles, pour les garçons, et qui insinue pas que le corps de la femme dérange les garçons, et que c'est à l'adolescente de se plier à ces contraintes-là, et que c'est pas à l'adolescent de se contrôler et de se dire, ben non, le corps de la fille n'est pas sexuel. Fait qu'un bon code vestimentaire, c'est un code vestimentaire qui, justement, est exactement pareil pour les gars, pour les filles, qui enlève pas de la liberté aux filles de se mettre en petit linge quand ils ont extrêmement chaud l'été. Si on l'a bien vécu, je pense que c'est pour cette raison-là que l'élève au pensionnat, elle a enlevé sa brassière, c'est parce qu'elle avait chaud, elle se sentait comprimée. Donc, c'est pas une raison de suggestion, c'est une raison de confort. Et quand le code vestimentaire empêche les filles d'avoir ce confort-là pour les moments d'éducation, parce que quand on étudie, là, quand on écoute le prof, on a besoin d'être confortable dans notre corps, on a besoin de se sentir à l'aise sur notre chaise, d'avoir un milieu d'éducation aisant.
Est-ce que vous allez continuer comme ça à mener cette bataille-là je dirais partout au Québec, là? Est-ce que vous avez... parce que là, vous avez gagné, hein? Votre école, là, ils vous ont, ils vous ont donné le droit de porter les petites camisoles, hein? C'est ça?
Oui, exactement. En fait, pour mon combat, moi, c'est sûr que le mouvement des carrés jaunes, au début, il était très, très local. Donc, une fois qu'on a gagné notre objectif à notre école, le mouvement perd un peu de son ampleur parce que on a réussi qu'on voulait obtenir au départ. Mais c'est sûr que la lutte, donc moi personnellement, en tant que Célestine, j'écris des articles, je fais pas mal d'interviews, je parle avec des gens, je vais dans des rencontres par rapport à l'éducation, les cours d'éducation sexuelle, et c'est évident que je lâcherai pas le combat jusqu'à ce que on ait un contexte qui soit égal pour les gars, pour les filles, un contexte qui soit moins contraignant et qui surtout n'encourage plus la culture du viol. Donc c'est évident, certain, que moi je lâche pas le combat. Je lâche pas le contexte, je lâche rien.
D'accord. Avez-vous l'intention de faire de la politique plus tard ou du syndicalisme?
Oh, définitivement. Non, non, de la politique. Je suis hyper intéressée. D'ailleurs, j'essaie de m'impliquer le plus possible à Québec dans la campagne électorale de Québec solidaire. Donc,
Vous êtes Québec solidaire, vous?
Ouais.
Très bien.
Ben oui, ça m'interpelle beaucoup la politique. Donc.
Oui, on a bien senti ça, puis j'ai hâte de voir où est-ce que vous allez être dans une couple d'années. Célestine Houda, donc une étudiante en secondaire 4 à l'école Joseph-François Perrault à Québec, donc cofondatrice du mouvement des Carrés jaunes. Merci Célestine, bon retour en classe.
Merci, bonne fin de journée.
Bye. Boy. Il y a de la relève, hein?
Au retour, Maxime Talbot se remémore pour nous sa visite à la Maison-Blanche il y a quelques années.